dans le tempo, c'est déjà l'épisode 2 et on commence juste après le générique. Thomas présente. Dans le tempo. On est déjà de retour, un mois après le premier épisode. On voulait d'ailleurs vous remercier pour l'accueil super chaleureux. On a eu plein de retours positifs, plein de gens nous ont écrit, des artistes notamment, pour nous dire qu'ils avaient trouvé ça cool. On est évidemment avec Michel, alias Chrono Music, toujours dans le game. Michel,
salut,
comment ça va?
Salut, toujours, ça va et toi?
Mais oui, très très bien. Justement, si ça vous plaît tout ça, vous avez vu, on a donc une chaîne YouTube, Monte le son, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre tout ce qu'on fait, il y a d'autres types de vidéos aussi, ça nous permet de continuer, d'aborder plein de sujets différents, et notamment aujourd'hui les gars, on s'était dit qu'on allait aborder un sujet un peu différent. La dernière fois c'était assez axé business, etc. Et là, on s'est dit qu'on allait parler guitare. Chrono, qu'est-ce qu'on va faire exactement?
Bonjour, on est avec Florent Garcia, musicien professionnel, professeur de guitare, très présent sur YouTube et Instagram également. Alors sur sa chaîne YouTube, il analyse le jeu des guitaristes, il donne des conseils techniques, de composition, il partage sa vision de la guitare, etc. Et il s'intéresse notamment aux nouvelles approches de cet instrument, et c'est pour ça qu'on pensait qu'il était pertinent ici. Parce qu'en gros, c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui, c'est d'une part la place de la guitare dans la musique en général, dans la production musicale, et aussi dans la sphère des guitaristes, les musiciens qui gratouillent, quoi. Alors, Florent, bonjour.
Yes, salut tout le monde. Merci de l'invite, c'est cool. Je suis content d'être là pour parler musique un peu, là. Ça va être
un
cool.
Un peu de guitare, la gratte.
Ouais.
C'est un plaisir de te recevoir. Michel, on se disait, le mec, il a débarqué de nulle part et il a réussi à avoir 146 000 abonnés sur YouTube en parlant de guitare aujourd'hui. Complètement improbable. Comment c'est possible un truc pareil, Florent? Est-ce qu'il y a de la place encore pour la guitare sur Internet comme ça? On arrive à monter une chaîne YouTube, 146 000 comme ça?
Bah on regarde, dirait. Apparemment. Bah, en vrai, le secret, c'est justement de ne pas parler que de guitare.
Ah, merde. On a déjà spoilé une partie de la vie.
Voilà, ça annonce la thématique qui va arriver. Non, mais grave, je suis content, je suis super content de l'engouement qu'il y a autour de la chaîne. Je suis super fier de l'avancée de la chaîne. Mais c'est vrai que j'estime plus être, en tout cas, une chaîne qui parle que de guitare. Même si ça reste un peu la thématique qui va revenir souvent en fonction des vidéos, c'est vrai que même moi, j'aime élargir le plus possible le sujet et parler de choses différentes, quoi, possible.
En fait, on est venu à ce sujet parce qu'on s'est dit, la guitare, on a envie de parler aux instrumentistes de manière générale, mais la guitare incarne quand même toute une époque. C'est évidemment l'un des instruments les plus pratiqués en France. On le retrouve après le piano, la flûte, on retrouve tout de suite la guitare. C'est ce qui fait envie aussi aux gens. C'est le deuxième instrument qui donne le plus envie aux Français. Ça a été mis en avant dans beaucoup de styles. On pense évidemment au jazz, au rock, au funk, à la pop, au métal, bien entendu. Il y a eu les grands guitares héros, etc. C'est vraiment un des emblèmes de la musique pop, c'est présent dans notre quotidien, mais pour autant, je sais pas si on pourrait d'ailleurs commencer avec ça, on a l'impression que dans la musique d'aujourd'hui, c'est un instrument qui est moins mis en avant. Alors peut-être qu'il n'a pas disparu, on va discuter de tout ça, mais en tout cas, l'époque de la guitare reine vraiment iconique semble passer. Est-ce qu'on le doit aux musiques électroniques? Est-ce qu'on le doit, je sais pas, à l'avènement de la MAO? En tout cas, on trouvait légitime de s'interroger là-dessus. Et Florent, tu nous paraissais vraiment la personne appropriée pour discuter de tout ça. Parce que justement, tu essayes d'avoir une approche, entre guillemets, plus actuelle, plus moderne autour de la guitare. Pour lancer le podcast, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait diviser ça en deux parties principalement. D'abord, se questionner un peu sur la production musicale d'aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on entend? Est-ce qu'il y a encore de la musique à guitare? Est-ce que dans les grosses productions, il y a de la guitare? Et puis, dans un deuxième temps, s'adresser un peu plus aux guitaristes du quotidien. Est-ce qu'il y a des manières de renouveler son approche? Est-ce qu'on s'inscrit encore dans le blues, dans le rock comme auparavant? Bref, tous ces questionnements. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la première partie.
Alors, la première question qu'on se posait, c'était globalement la place de la guitare aujourd'hui dans la production musicale. On l'entend quand même clairement qu'elle a encore une place et on a encore quelques guitar heroes dans la sphère, on va dire, des guitaristes. Mais c'est vrai que dans la production à grande échelle, on l'entend beaucoup moins. Alors selon toi, Florent, à quoi est-ce que c'est dû et est-ce que c'est temporaire? Quelle est ta vision de ce point de vue-là?
C'est sûr que la grande époque c'est un sujet que j'aborde très souvent sur ma chaîne, mais la grande époque des guitar heroes, c'est sûr qu'elle est un peu révolue, quoi. Mais ça fait depuis, c'est pas nouveau, quoi. Je veux dire, ça fait 30 ans qu'il y a plus de guitar heroes. C'est pas les années 2010 qui ont lancé le truc.
Ça serait qui le dernier pour toi, le dernier guitar heroes? Est-ce qu'ici on devait marquer le truc, tu vois, comme ça?
honnêtement, comme ça, c'est compliqué parce que ça dépend. Comme d'hab, Guitar Hero, t'as pas vraiment de définition. Donc, ça dépend de ta vision. Pour moi, il y en a toujours des Guitar Hero, tu vois. Il y a toujours des John Mayer, des gars comme ça qui sont des très grosses stars, en tout cas aux US ou ailleurs qu'en Europe, et qui jouent de la guitare. Après, tu vois, si t'as la définition du Guitar Hero en mode le gars qui va caler un solo sur chaque morceau, qui va faire le solo, le torse-poil, les cheveux au vent, là, tu vois, c'est sûr, je pense. Les derniers représentants, c'était un peu les Slash, tu vois, les Frusciante, ce genre de gars, les Red Hot, tout ça. Dans les années 90, tu vois, même Kurt Cobain, je sais pas si tu peux vraiment le considérer comme un guitar hero, parce que c'était pas un gars qui calait des solos de fou, quoi. C'est juste, c'était un gars qui écrivait des bons morceaux et tout, mais guitaristiquement, c'était pas ouf. Donc vraiment, c'est vrai que le terme guitar hero...
J'allais dire, on a quand même eu un morceau récemment, je pense que c'était Rihanna, en feat avec Carlos Santana, et qui, pour moi, du coup, me paraît être un des derniers de cette époque-là qui est pertinent dans la pop aujourd'hui, tu vois, genre il a... Bon, c'est toujours un peu la même chose, tu vois, c'est toujours...
C'était le morceau Maria Maria qu'ils avaient repris ensemble, non, c'était pas ça?
Ouais, voilà, pense, c'est ça, tu vois.
Il y a quelques années, ouais.
C'est ça. Mais en tout cas, dans l'inconscient collectif, du coup, en tout cas, il me paraît être un des derniers représentants de ce truc-là qui est encore pertinent dans la pop actuelle, tu vois.
Ouais, carrément. Après, je pense que c'est pas le dernier. Je pense que c'est juste, il y a eu un concours de circonstances qui fait que Rihanna devait le connaître d'un truc, machin. Je pense pas, tu vois, je pense pas que Santana, il ait un jeu plus particulièrement actuel que les autres guitaristes de son époque. Que tu vois, que plein de gens, en fait, de son époque.
Ah ouais, non. Moi, je parle vraiment en termes de place symbolique, tu vois. Mais par exemple, tu vois passer les vidéos masterclass. Pour la musique de film, c'est Hans Zimmer. Pour le scénario, c'est je sais pas qui, et c'est putain, comment il s'appelle, bref, on s'en fout. Mais pour la guitare, c'est Carlos Santana, tu vois.
Ouais, carrément, c'était Santana, et c'était Tom Morello aussi qui avait fait la masterclass.
Ah oui, c'est vrai, aussi, qui marche aussi bien. Tom Morello. Ouais.
C'est ça. Ouais. Mais tu vois, je pense pas que ça soit... Effectivement, c'est deux qui ont eu de la visibilité récemment. Tom Morello, il a sorti aussi un nouveau modèle signature chez Fender, là, cette année. Donc c'est aussi que, on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi que les guitares, ça continue à se vendre toujours. Mais voilà, je pense que voilà, les gars comme eux, qui ont eu autant de succès qu'eux et qui ont autant de rayonnement, c'est pas les deux seuls. Et je pense que tu vois, on n'est pas à l'abri de voir d'autres masterclass ou d'autres collaborations débarquer avec d'autres guitaristes. Tu vois, si demain il y a un artiste, je sais pas qui fait, où il y a un solo de Jimmy Page au milieu, tout le monde va kiffer, tu vois. Mais c'est vrai qu'on est plus dans l'ordre de l'hommage, du feat. C'est pas Led Zeppelin qui revient, quoi. C'est pas Rage Against the Machine qui revient. C'est plus ces guitaristes-là, ces musiciens-là qui vont collaborer avec d'autres gros artistes plus mainstream, quoi.
Et puis c'est surtout des mecs. Symboliquement, en tout cas, pardon.
Non, je t'en prie, vas-y.
Je vais dire symboliquement, il y a quand même dans la sphère vraiment des gratteux, j'ai l'impression, tu vois, sphère dont je fais plus vraiment partie, mais j'ai vraiment digué pendant tout un moment, et j'ai l'impression que on a quand même encore des symboles aujourd'hui qui sont très respecté. Bon, t'as Jacob Collier, c'est la composition et c'est genre au-dessus de tout le monde dans l'inconscient collectif des musiciens. Et puis après, t'as beaucoup de stars quand même. T'as Itika Nico qui fait des toutes petites vidéos sur YouTube où genre il fait des vidéos d'une minute où il joue. T'as Yvette Young avec qui t'as collaboré d'ailleurs. Il y a Tim Henson de Polyphia. Et il y a quand même des jeunes en plus qui bénéficient quand même d'une aura particulière dans le milieu de la guitare, j'ai l'impression.
Et est-ce que, pour tourner la question peut-être un peu différemment, Florent, est-ce que c'est plus tant s'attacher aux guitar héros, mais est-ce qu'il y a encore de la musique à guitare aujourd'hui, où la guitare reste essentielle, prédominante? Est-ce que, voilà, il y a des noms, chrono à commencer, à en citer quelques-uns. Est-ce que tu penses qu'existe toujours cette musique à guitare?
Ouais, bah carrément, chrono a cité vraiment les plus gros. Et c'est vrai que les gars comme Itika Nito ou quoi... juste en postant sur Insta des vidéos de 50 secondes, ils ont réussi cash à trouver un public de fou, surtout un public qui est ultra responsive, quoi, tu vois. Et pareil, le mec a monté sa chaîne YouTube et je sais pas combien il est de centaines de milliers d'abonnés, c'est une vidéo à laquelle des millions de vues. Donc c'est clair qu'il y a toujours un truc, c'est juste que la manière de communiquer autour a changé. C'est-à-dire que voilà, c'est plus sur MTV que tu vas voir les gros trucs, c'est sur Insta, c'est... Mais bon, ça c'est un peu le... tu vois, c'est un peu le cas pour plein de choses et pour plein de, d'activités musicales maintenant, c'est que voilà, la place a changé, c'est plus à la télé que tu le vois, c'est sur Insta. Mais c'est clair qu'il y a plein de gros stars, les Matheus Asato aussi, bah, qui ont joué, qui a aussi joué avec, c'est pas avec Rihanna, lui, c'est, je sais plus avec qui, mais bon, c'est des gars, voilà, qui se sont fait repérer de base sur Insta. Et il y a pas longtemps, je voyais un post de John Mayer qui, c'était une interview où on lui demandait en gros la dernière claque qu'il s'était pris niveau guitariste, et il avait cité Melanie Faye, qui est pareil, qui est voilà, la très jeune guitariste, je sais même pas si elle a 20 ans, tu vois, je pense pas. Et qui jouait dans sa chambre en tailleur tranquille avec un poster de Hendrix derrière. Et, ouais, et c'est ça qui est fou aussi. C'est que ça donne un peu la chance à tout le monde et que t'as plein de nouveaux caractères qui commencent à sortir, quoi.
Dites-moi si je me trompe, les gars, mais est-ce que, tout simplement, à l'image de la musique en général, et même, pourquoi pas, notre société, c'est peut-être juste un peu plus fragmenté, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de domaines de niche, de petites communautés, et en gros, tu n'as plus de grandes icônes, qu'elles soient de la guitare ou même de la pop, ou de manière générale, elles sont rares, en fait, aujourd'hui, par rapport à une certaine époque, je pense, hormis quelques exemples, type Kanye West, Beyoncé, etc. Mais où, au final, on va avoir des gens qui développent sur une scène très précise, de niche, avec une communauté par contre très fédérée, très forte à travers les réseaux sociaux, etc. Et c'est là qu'on voit quand même ces mecs-là. Ils existent toujours, mais peut-être tout simplement qu'ils n'ont pas la même résonance auprès du grand public.
Carrément, carrément. Bah, c'est tout à fait ça, tu vois. Je pense que c'est une évolution qui est tout à fait logique comparée à ce qu'on a connu avant. Je pense que la deuxième moitié du XXe siècle, tu vois, c'était en gros l'apparition des musiques populaires et modernes, vraiment. Tu vois, on partait voilà, d'un truc où les gens, je veux dire, tu vois, début du siècle, c'était vraiment classique, puis un peu jazz, tout ça. Après, ça a commencé à se fragmenter, où on a eu les courants rock, tout ça. On a eu le rap qui a commencé à apparaître, tu vois, 80, 90, tout ça, vraiment prendre du truc. Et donc, une fois qu'ils se sont vraiment installés, c'est normal que ces styles-là commencent aussi à se fragmenter. Et ça fait une espèce de réseau tentaculaire où maintenant, voilà, t'as cette espèce de gros style qui était très populaire à l'époque. Donc forcément, tu vois, dans les années 70, c'était le rock, c'était le truc comme ça. Mais maintenant, t'as tous les descendants qui se sont mélangés à d'autres courants qui sont en train de et ça crée des niches, en fait. Et enfin, c'est ma vision des choses, hein. Et après, effectivement, c'est là qu'on voit plein de nouveaux courants apparaître. Et surtout, c'est aussi Internet qui permet maintenant, même quand tu fais pas un style qui parle à beaucoup de gens, Internet te permet de trouver sur la terre entière les gens à qui ça va parler. Tu vois, si avant t'avais un groupe de noise garage ou je sais pas quoi et que t'habitais dans le trou du cul de la France, bon, c'était cuit. De base, c'était foutu, quoi. Alors que maintenant, tu peux très bien habiter n'importe où, faire n'importe quel style, tu trouveras toujours des gens sur Internet pour te suivre. Donc, ça suit complètement la logique de la fragmentation et de la multiplication des niches musicales, quoi.
Et selon toi, en fait, c'est quoi entre, enfin, ce serait quoi les deux trois paramètres qui font que c'est un tel et pas un tel qui réussit à percer entre guillemets dans ce truc-là. Qu'est-ce qui fait que une Yvette Young ou un Tim Henson, c'est eux et pas d'autres? Est-ce que c'est la technique qui les différencie? Est-ce que c'est leur manière de communiquer? Quel est ton point de vue là-dessus?
Ouais, bah c'est bon, t'as répondu direct, c'est réglé. Bah, enfin, pour moi, c'est vraiment ça les deux trucs. Ça va être déjà comment tu joues, quoi, ta musicalité, tout ça. Mais le problème, c'est que maintenant à cause ou grâce à Internet, tout le monde joue très bien, franchement. Tu vois, comparé à dans les années 70, maintenant, tu vas dans n'importe quelle ville, n'importe quel conservatoire, t'as des mecs qui jouent, peu importe l'instrument, qui jouent trop bien, quoi. Et donc, le facteur différenciation, pour moi, il va se faire bah, soit sur l'originalité de ce que tu fais, mais surtout, à coup sûr, sur la personnalité de l'interprète, quoi. Et c'est vrai que si tu parles de Tim Henson tout de suite, tu vois, le gars, il arrive, c'est...
Un beau gars, ça, hein.
C'est une rockstar, quoi. Le gars, il a la gueule refaite, il a son look, son attitude à la con, ils font des vidéos de démo, ils sont là avec les verres de vin, ils prennent tout le monde de haut. Et c'est tout de suite l'attitude où tu dis, bon, lui... Vas-y, j'ai envie de le suivre, il a l'air drôle, tu vois. J'ai envie de me marrer. Ouais. Tu vois, Yvette Young, elle est super... elle a une énergie qui est super agréable, tu vois. C'est super cool.
Ultra feel good.
Et c'est ça, ultra feel good. Et en plus, elle a un jeu qui est super original où elle mélange des techniques de piano à la guitare et tout. Et donc, t'as vraiment toujours ce côté un peu... t'as envie de suivre les gens pour qui ils sont, quoi. Mais aussi pour ce qu'ils font, quoi.
Et est-ce que... Parce qu'il y a... Ok, il y a l'aspect technique, l'aspect communication, mais il y a parfois aussi une proposition musicale qui sort du lot. Je pense en l'occurrence à Polyphia. Polyphia, c'est un truc que je fais écouter à tous mes potes quand ils me disent « Ouais, le rock, le métal, la guitare, etc., il n'y a plus rien. » Parce que j'avais pris une claque, en fait, en découvrant ce truc. C'est-à-dire que ils ont réussi à la fois à proposer... Pardon ?
Polyphia, c'est le futur de ouf.
Mais grave.
Il y a tout, tu vois. Il y a tout.
ça a été une claque absolue quand j'ai découvert ce truc. Et pourquoi? Parce qu'il y a une vraie proposition moderne, c'est à la fois trap, à la fois électronique, à la fois super technique pour les gratteux. Et c'est là aussi où il sort du lot. C'est-à-dire qu'heureusement, il n'y a pas que la maîtrise du guitariste, même si elle joue aussi, et la communication, mais c'est aussi, on peut encore inventer, ou en tout cas, fusionner des choses et proposer un truc musicalement différent.
Ben, je sais pas ce que t'en penses, toi, Florent, mais moi, j'ai l'impression, justement, enfin, peut-être que c'est moi qui manque d'imagination, mais je vois mal comment est-ce qu'on pourrait encore innover en termes de technique de guitare, tu vois. T'as Van Halen qui a ramené le tapping, et puis je sais pas quoi, mais là, maintenant, en gros, j'ai l'impression que tous, cette génération-là qui reste très talentueuse, etc., c'est quand même une synthèse de tout ce qui a déjà été inventé avant, tu vois. Alors, c'est maîtrisé à la perfection, etc., mais est-ce que t'imagines, toi, que tout d'un coup, il y ait une nouvelle façon de jouer qui débarque après tout ce qu'on vient de se manger dans la gueule, là, c'est, je sais pas, 5-10 dernières années?
Encore une fois, ça, c'est... En général, tu dis non jusqu'à ce qu'un mec arrive et en fait, il le fasse, tu vois. C'est le grand truc. C'est vrai que ouais. Moi, personnellement, comme ça, si tu parles purement de technique guitaristique, je pense qu'on commence quand même à avoir fait le tour. Enfin, tu peux pas trouver encore une nouvelle manière de gratter une corde ou quoi, tu vois. Mais ça n'empêche pas de trouver toujours une manière originale d'utiliser ces mêmes techniques-là et de les mélanger, tu vois. On parlait de Tim Henson. Le gars, en un riff, il te mélange 40 techniques différentes. T'as plein de guitaristes comme ça dans cette niche-là qui font des trucs, tu vois. Ouais, quand voilà. Je sais pas si vous connaissez Animals as Leaders.
Oui.
Ouais, de ouf. Avec ouais, bien sûr. Nabassi.
Voilà, c'est ça. Et quand Tosi Nabassi, il est arrivé, tu vois, pareil, à l'époque, tout le monde disait, vas-y, enfin, genre, la guitare, on a tout dit. Et puis, il est arrivé, il a commencé à slapper en mode Victor Wooten sur son truc, à faire des métriques pas possibles et tout. Et c'est vrai que c'était la première fois que t'entendais ce genre de son sur une guitare et ce genre de riff. Genre, c'était incroyable. Et pourtant, en fait, tout ce qu'il faisait, entre guillemets, techniquement, c'était reprendre la technique de pouce de Victor Wooten, slapper un peu et du finger picking. C'était des techniques qui existaient déjà. Mais par contre, tu n'avais jamais entendu un son comme ça. Donc, avec les mêmes techniques, je pense qu'on peut toujours arriver à quelque chose de neuf, quoi.
Je suis complètement
potentiellement,
d'accord.
Ça, c'est une question qu'on n'avait pas écrite, mais moi, j'ai vu, par exemple, des trucs débarquer dans les pubs. C'était pas en pub Insta, mais tu vois, genre, tu as des capots où, genre, tu peux diviser ça par note, tu vois, ça veut dire tu mets pas ton capot juste sur ta frette, c'est tu peux faire déjà des accords sur ton capot. Dans quelle mesure est-ce que tu penses que ce genre d'avancée technologique sera encore possible? Qu'est-ce que tu penses que ça peut amener?
Ça, niveau avancée technologique, honnêtement, ce genre de capot-là, en fait, ce que ça te permet de faire, c'est ça, tout simplement d'avoir un accordage ouvert sans avoir à te désaccorder. Tu vois, c'est-à-dire qu'au lieu de changer ton accordage de guitare pour passer à un accordage ouvert, bah tu mets ton capot et c'est fait, quoi. Donc honnêtement, enfin, ce truc-là, pour moi, il n'invente rien. C'est juste un truc de flemmard, tu vois, où t'as pas envie, ou un truc pratique. si tu dois jouer tu vois, dans un gig des chansons avec différents accordages, c'est pratique. Mais ça reste de l'accordage ouvert, et l'accordage ouvert, tu vois, Robert Johnson en 1925, il utilisait déjà un accordage ouvert. Donc ça, tu vois, je pense que technologiquement, bon, il se passe des trucs beaucoup au niveau des pédales maintenant, tu vois, de guitare, tout ça. Il y a beaucoup d'avancées là, et c'est vrai que tu commences à avoir des sons de fou. Mais généralement, en fait, quand t'as une grosse différence de... Quand t'as un truc nouveau qui arrive, généralement, en fait, c'est pas grâce à du matos, c'est vraiment grâce à un mec qui se prend la tête et qui essaie de créer quelque chose de neuf sur ce qui a déjà été bâti, quoi.
Ouais. Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est que ces aspects pédales, le son, la production sonore, guitare aujourd'hui, etc., on en parle un peu après parce que c'est intéressant. Je pense que ça a beaucoup évolué aussi, effectivement. Mais j'aimerais juste qu'on se recentre un poil sur la musique aujourd'hui, les grosses productions, etc. Y a-t-il encore des musiques à guitare? J'avais forcément pensé à... Alors, quand on parle de musique à guitare, on parle guitare héros, plutôt rock, etc. Même si on a cité des noms qui fusionnent les choses, c'est plus complexe aujourd'hui d'y voir clair. Mais il y a aussi des grandes stars de la pop, des énormes stars de la pop qui mettent la guitare à l'honneur. Je pense à Ed Sheeran, je pense à Taylor Swift, du Post Malone dans le rap récemment, Harry Styles. Il y a plein de gens comme ça qui quand même mettent en avant la guitare, même si c'est pas le cœur de leur pratique. Et ben moi, Ed Sheeran, quand je l'ai en tête, je le vois avec sa gratte sur scène, quoi.
Ouais, bien sûr. Et ça, je pense que c'est un truc qui est culturel aussi. T'as vu tous les artistes que t'as cités, c'est des mecs qui viennent des États-Unis. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'en fait, tu vois, la country, c'est genre... enfin, la pop country, quoi. Les trucs à la Taylor Swift et tout. C'est le style qui vend le plus là-bas. Et du coup, forcément, t'as la grosse influence de la guitare dedans. Et c'est clair que, voilà, c'est juste que c'est plus le rôle de guitar hero dont on parlait au tout début. C'est un rôle plutôt en mode songwriter où t'es avec ta guitare, tu fais tes accords, tu vois, à la Post Malone et tout, qui joue très bien et tout, y a pas de souci. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment un truc qui est propre aux US. C'est tellement ancré dans leur culture et dans la country que forcément, t'as ça. Et tu retrouves ça aussi un peu en Amérique latine, mine de rien. Parce que ici, moi, je découvre tous les jours des superstars de musique en Amérique latine, des chanteurs ou quoi. Et pareil, t'as une grosse influence guitaristique là-dessus. Mais putain, c'est des gars qui calent mais des milliards de vues sur YouTube et tout, tu vois, j'en ai jamais entendu parler. Et tous les jours, je me rends compte qu'en fait, la scène... Je sais plus du tout. Je suis tombé sur la vidéo d'un gars qui faisait visiter sa maison. Le truc, c'était un truc incroyable, j'avais jamais vu ça. Je me suis dit, mais c'est qui ce gars? Comment il a autant de thunes? Et je suis allé voir un de ses clips et il avait 1,5 milliard de vues dessus. J'étais en mode, ah ok, oh, bon bah, c'est moi qui suis con, là, tu vois.
Ouais.
Et y a vraiment plein de gars comme ça. Vu que j'écoute pas, j'ai oublié les noms, je suis désolé, mais là aussi, je pense que t'as toujours l'influence de la musique d'origine, quoi. Le côté un peu country aux US, le truc plus latin, quoi, du côté Amérique du Sud.
Ouais.
Et que nous, on a moins, du coup, en Europe, on a un peu moins cette influence-là, quoi.
Ouais, bah ouais. Moi, dans toute la nouvelle vague, celui que j'écoute le plus, c'est probablement Ichika Nito. Et justement, tu sens aussi dans ses harmonies, etc., qu'il y a un truc qui est très japonais, quoi. Tu vois, que c'est un mélange en même temps de jazz et de musique classique, et tu vois.
C'est ça, c'est vraiment de la musique d'animé, quoi. C'est de la musique d'animé. Voilà, tu vois, ça pourrait être un ending de Naruto, part, mais.
Tu vois. Ah, tu connais.
Eh oui.
Non, mais carrément. Mais c'est aussi ça, c'est que maintenant, en fait, t'as tout aussi, tout le paysage culturel, toute la culture populaire qui commence à influencer un peu tout. Et c'est vrai que maintenant, tu vois, je veux dire, il y a 10 ans, quand tu regardais un animé, t'étais un otaku à la con, tu vois. Et maintenant, en fait, tout le monde a maté des animés quand il était ado. Tout le monde continue à en mater de temps en temps, avec toute l'influence japonaise qui va dessus, la musique japonaise qui a une couleur très particulière. Et forcément, voilà, ça, quand tu mélanges ça à d'autres styles, ça te crée des Ichika Nito et des trucs de ce genre-là, quoi.
Les gars, on a donc parlé de la présence de la guitare quand même dans la pop, encore assez importante. On trouve, même si c'est plus des domaines de niche, encore beaucoup de musique à guitare, influencée parfois par le rock, par d'autres choses, par la trap, avec Polyphia, plein d'éléments différents. Mais quand on regarde quand même les charts, la musique populaire, mainstream, grand public, faut pas oublier que la musique, ça reste l'écoute de musique, ça reste un loisir grand public. C'est vrai qu'on pourrait, on se fait reprocher parfois dans les vidéos de parler beaucoup de l'aspect streaming, musique du moment qui marche, etc. Mais moi, c'est vrai que j'aime parler de ça parce que c'est ce qui nous entoure, c'est notre quotidien. Et évidemment, il y aura les mélomanes, les musiciens, etc. qui vont plus loin. Mais je trouve ça intéressant quand même de se pencher aussi sur la musique mainstream parce que c'est notre quotidien. Et en l'occurrence, ce qu'on observe quand même, c'est que les musiques dites urbaines, rap, R&B, etc., sont extrêmement présentes. Les musiques électroniques aussi. Est-ce que c'est des genres avec lesquels on peut faire cohabiter la guitare, en l'occurrence?
Ça, c'est sûr que oui. Après, c'est vrai que le problème, entre guillemets, il est du côté des producteurs qui, maintenant, sont rarement des musiciens. Et qui de base ont l'habitude de composer à la souris, quoi, presque, tu vois, ou avec un petit clavier MIDI de 2 octaves et qui font les trucs et qui n'ont pas forcément ce besoin là. Mais à chaque fois que j'ai bossé avec des rappeurs ou avec des gars, voilà, type musique urbaine, les gars étaient trop chauds pour avoir de vrais instrumentistes avec eux. Et je sais que voilà, à chaque fois que je sors une tollbox ou quoi, les mecs sont comme des fous. Et c'est vrai que moi, par exemple, souvent dans mes DM, je reçois pas mal de messages de mecs qui font de la prod ou quoi, ou de rappeurs, qui demandent si j'ai des packs de samples ou quoi. Et c'est vrai que maintenant, en fait, Splice et tout, en fait, les gars bossent avec des vrais instruments de base, c'est juste qu'on a plus l'habitude d'utiliser des samples plutôt que de s'emmerder, entre guillemets, à apprendre un vrai instrument. Parce que c'est vrai que maintenant, pour 6 balles par mois sur Splice, bah, tu peux avoir des samples de n'importe quoi, n'importe quel instrument, n'importe quel tempo. Donc, t'as moins le côté nécessité d'apprendre un instrument, quoi. Mais je pense pas que les gars soient moins intéressés par les sonorités que ça procure, quoi.
T'en penses quoi, toi, Michel?
Ben, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que la guitare, c'est... En gros, ça, j'ai l'impression que dans la production à grande échelle, c'est une couleur sur une palette qui s'est élargie de ouf, et que utiliser une guitare, ça revient à amener soit une petite vibe latino, soit une petite vibe manouche, soit une petite vibe... Enfin, tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression que dans le grand tableau des choses, ça commence à ressembler plus ou moins à ça, tu vois. C'est genre, je fais un truc latino, je vais ramener une petite guitare. Mais j'ai l'impression que... pour parler, je sais pas comment bien l'exprimer. Mais j'ai l'impression que globalement, c'est pas qu'on est lassé, mais que c'est un instrument qui est devenu un peu classique, quoi. Tu vois, de la même manière que une section de cordes, ça a une connotation. Une section de cordes, ça a une connotation dans l'inconscient collectif. T'en entends, tu te dis, soit c'est classe, soit c'est vieux, soit c'est machin, tu vois. Et la guitare, pareil, j'ai l'impression que c'est devenu très connoté de par le fait qu'en fait, en termes de timbre, on a accès à absolument tout ce qu'on veut maintenant.
C'est quasi, j'ai l'impression, on parle d'un truc un peu folklorique, entre guillemets, c'est-à-dire que pour apporter une touche exotique, ou en tout cas différente, et tout de suite qu'on associe ça à un style en particulier, c'est là où on va l'utiliser plutôt, quoi, en gros.
Moi, c'est l'impression que ça me donne. Après, ce que j'ai noté, par exemple, c'est un des derniers exemples qui me vient à l'esprit, c'est Trippie Redd, où je connais pas du tout le gars, j'ai juste écouté son dernier album, j'ai même oublié le nom, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait ce côté... Le producteur de chambre qui a commencé avec la guitare, c'est l'impression que ça me donne. Je connais pas du tout son parcours, mais c'est un morceau, je crois, enfin un album, il y a 20 morceaux, et sur 20 morceaux, t'en as 15 où c'est de la guitare enregistrée de manière un peu dégueulasse, ça se sent que c'est autoproduit et tout ça. Il fait son petit riff de guitare, machin, et puis il rappe par-dessus, etc. Et ça lui donne un côté lo-fi chill-up, tu vois, j'ai envie de dire lo-fi chill-up et j'auto-tune dessus et ça lui donne une vibe, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que c'est... Ouais, que ça devient de plus en plus limitant comparé à tout ce qu'on peut faire avec notamment, des sampleurs comme Kontakt et des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Florent.
Ouais, Florent.
Ouais, bien sûr, bah en fait, c'est ça, je suis totalement ton avis. En fait, c'est pas que la guitare est en mode la guitare c'est mort, etc. et tout. C'est juste que ça reprend de plus en plus sa place d'instrument au même niveau que les autres instruments, quoi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la guitare, ça a été l'instrument, tu vois, en mode il fallait une guitare sur tous les morceaux, il fallait un solo de guitare sur tous les morceaux et tout. Mmh. Et ça a éclipsé complètement tout le reste. Tu vois, que c'était rare d'avoir une section de cuivre et si t'en avais une, c'était en fond. C'était rare d'avoir, t'avais jamais de solo de clavier ou quoi. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est juste que les choses, pour moi, se rééquilibrent un petit peu. Et effectivement, en fait, maintenant, tu prends plus une guitare par défaut parce qu'il faut une guitare dedans. Tu prends une guitare quand tu as besoin d'avoir cette couleur-là et l'émotion qui y est associée. Et c'est pas plus mal, tu vois, c'est pas du tout mal. Et effectivement, ça, c'est lié aussi au fait que maintenant, tu as des VST d'absolument tout ce que tu veux et des samples d'absolument tout ce que tu veux. Avant, si tu voulais un son de cordes frottées, tu vois, si tu voulais des violons ou quoi, bah vas-y, paye des sessions avec 20 musiciens à 10 000 balles, tu vois, c'était impossible. Ouais. Maintenant, tu t'achètes une banque à 200 balles chez Native ou quoi, tu vois, et hop, c'est bon, t'as ta section. Donc, en fait, maintenant, tu peux vraiment te permettre de faire un choix purement par rapport à une couleur et un truc que tu veux retranscrire plutôt que par défaut parce que une guitare, c'est pas cher ou quoi, tu vois.
Ouais. Et justement, c'est marrant parce que moi, un des guitaristes qui me parle le plus en ce moment, c'est David Maxime Mikic. Et j'avais adoré son EP Who Beat the Moon, je pense que ça s'appelle, et ça commence justement par une section de cordes complètement à croquer, genre tu sais très film d'animation, très tu vois, ouais, je sais pas, lush, tu vois, gorgeous. Ouais. Et ça commence par ce truc-là, et puis après ça balance des gros riffs en drop A, tu vois. Et j'aime vraiment bien ce truc. Et justement, enfin, il y a aussi cette place-là dans les entre guillemets héros de la guitare actuelle. Qui sont en général des one-man bands, je pense aussi à Pliny et ce genre de trucs, tu vois, ils font du prog dans leur chambre, tout seul, et ça se mélange en fait beaucoup avec la MAO, ça veut dire que l'instrument principal, ça reste quand même la guitare, ça reste quand même, venez, on m'écoute me branler sur le manche pendant 30 minutes parce que j'ai fait un EP, mais il y a aussi beaucoup de, viens, je t'ajoute telle couleur, etc., et t'as des trucs très expérimentaux, j'ai envie de dire, dans cette école-là.
Carrément, et c'est vrai que là, par rapport à ça, on n'est plus du tout maintenant dans la course à la branlette du manche, quoi, je trouve. Et comme tu disais, voilà, il y a plein de gars, moi, il y a Sean Angus Watson que je suis, que j'adore aussi, et c'est vrai qu'en fait, vu que maintenant, tout le monde est très bon techniquement, t'as plus trop d'intérêt à jouer vite comme un malade, et les gens se posent plus la question de quelle couleur je vais apporter, et c'est vrai que même si Pliny, ça reste techniquement compliqué... ça sent que lui, ce qu'il recherche, c'est avant tout les mélodies, c'est, tu vois, s'amuser avec les métriques, s'amuser avec les harmonies.
Ouais, moi, je disais ça pour faire le comique, tu vois, mais ouais, à fond, c'est pas du tout que des branleurs, tu vois, enfin, genre, ils sont très bons techniquement, et ils en font quelque chose, et ça, c'est, je respecte à fond, tu vois. D'ailleurs, Pliny, j'adore, c'est par lui que j'ai découvert toute cette tendance du one-man band prog, tu vois.
C'est ça. Et c'est un truc qui existe en fait depuis maintenant, je sais pas, ouais, plus de 10 ans, même 15 ans ou quoi. Il y avait les Jim Spanner, ce genre de truc. Bon, ça, c'est moins connu tout de suite, mais c'était les premiers gars à commencer un petit peu comme ça. Il y avait Max Wymy qui avait fait une vidéo là-dessus qui était super intéressante. Et même Periphery, je sais pas si vous connaissez Periphery.
Bien sûr.
Ah bah oui.
Ouais, voilà, qui est un des plus gros groupes actuels de métal. Alors, je sais pas si c'est un peu djent, enfin métal moderne en tout cas. Periphery, ouais. Ça a commencé avec Mika dans sa chambre qui enregistrait tout sur son ordi en mode one man band, et c'est après que le groupe s'est formé autour du projet Periphery qui était que lui à la base, quoi. Donc ouais, ouais. C'est là aussi que tu vois que c'est pas parce que t'es dans ta chambre à faire de la musique sur ton ordi que tu fais des instru trap sur FL Studio, quoi, tu vois. C'est,
ouais,
c'est
ça, voilà, qui est bien. C'est ça.
Mais par contre, tu vois, il y a un truc, on parlait par exemple tout à l'heure du fait qu'on peut utiliser des samples plutôt que d'avoir à jouer de la guitare directement. Et je trouve qu'il y a un truc qui illustre bien ça, c'est que les mecs qui font de la prod, qui sont aussi guitaristes, j'ai l'impression que souvent, justement, ils envisagent la guitare dans un morceau comme un sample. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire une boucle avant tout, un truc efficace, etc., plutôt que de jouer sur l'ensemble du morceau, etc. Et ça illustre bien, que ça influence aussi la façon dont on joue en tant que guitariste, quoi. Et le meilleur exemple que je puisse trouver, c'est que sur les morceaux, tu auras du sample, et puis souvent en live, en réalité, là, pour l'expérience live, etc., ils vont faire, pourquoi pas, appel à un gratteux. Tout à l'heure, on parlait de grandes stars, il y a Rihanna avec Emilio Betancourt, il y en a plein d'autres, et qui vont s'échapper un peu du sample pour le côté spectacle, mais par contre, vraiment, à la maison, même si t'es guitariste, ok, je vais faire 3 notes, ça me suffira, effectivement, ce ne sera qu'un élément parmi tant d'autres, ce dont on parlait tout à l'heure, quoi.
Ouais, exactement. Et ce qui est marrant, c'est qu'on traite même maintenant les pistes de guitare comme un sample volontairement. Mmh. On va le pitcher exprès en mettant un flex un peu dégueulasse dessus ou quoi pour justement, essayer de faire comme si c'était de base un sample alors que c'est toi qui l'as joué. Donc c'est vrai que voilà. Et ça vient aussi en partie des logiciels un peu récents qui marchent beaucoup avec des boucles ou quoi. C'est vrai que Ableton, le mode session, il t'invite en fait à avoir cette philosophie-là. À faire une boucle, voilà, de 4 mesures, tac, qui va se répéter et à construire après ton arrangement par-dessus. Donc, c'est à la fois l'influence de tous les styles musicaux qui sont basés sur le sample. Et en plus, le côté technique, je trouve qu'il t'invite vraiment de plus en plus à penser l'instrument comme ça.
Mais aussi parce que le côté technique a été fait pour servir les musiciens électroniques, en l'occurrence avec Ableton. Donc, c'est indirectement, c'est quand même aussi la musique électronique, d'une certaine manière, qui influence le jeu des guitaristes, quoi.
Ah ouais, complètement. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec tous les styles qui commencent à repisser les uns sur les autres, quoi. Mmh. Tu vois, et on se retrouve avec, voilà, un élément de la musique électronique qui va venir influer sur le rock, qui va venir influer sur le truc, et on se retrouve avec des groupes comme Bring Me The Horizon ou quoi, qui évoluent de manière très particulière, comme Polyphia, où tu vas mélanger la trap à du metal prog, tu vois, et t'as tout ça qui se mélange, et moi, c'est ça que je trouve super intéressant. Et c'est pour ça que je suis pas du tout d'accord quand t'as toujours les puristes qui sont là en mode ah, la musique de maintenant c'est de la merde. Non, tu vois, pour moi ça a jamais été aussi excitant que maintenant, quoi.
Fuck les puristes, mec.
Et ouais, non, mais...
Voilà.
Non, parce que
ça c'est fait.
Non, mais parce que j'ai droit dans mes vidéos, forcément. J'ai pas beaucoup de puristes, tu vois, les putains de puristes comme dirait Orelsan. Tu vois, mais c'est genre en mode, t'as toujours des gars qui sont en mode c'est mieux avant et tout, mais non, c'est pas mieux avant, c'est juste que bon, avec le temps, t'as un tri naturel qui se fait et il te reste que les meilleures choses d'avant. Mais avant, t'avais de la dope aussi, et je pense que maintenant, vu que quantitativement on a beaucoup plus de choses, forcément tu te retrouves avec beaucoup plus de bonnes choses, mais beaucoup plus de choses de merde aussi, quoi.
Il faut faire son tri, quoi, comme dans... Enfin, c'est ça qui est cool, je trouve, depuis toujours, hein. C'est que... Ouais, voilà, c'est ça. C'est si... Après, c'est depuis toujours, mais comme tu dis, il y a une quantité qui a évolué, enfin qui a énormément augmenté, quoi, une quantité de propositions. Donc, ouais, ça, j'ai l'impression que ça t'oblige à te responsabiliser encore plus, tu vois, à genre, enfin, pour moi, quelqu'un qui dit putain, la musique d'aujourd'hui, c'est de la merde, bah c'est quelqu'un qui s'est absolument pas sorti les doigts du cul, tu vois, c'est quelqu'un genre, il a allumé sa radio et il a dit ah, bah, ça craint, tu vois, et puis c'est tout. Alors que,
non, c'est ça, mais parce que de toute façon,
ça prend que dalle, tu vois.
C'est ça, vous connaissez peut-être mieux que moi les audiences des radios, mais honnêtement, moi, ça fait, je sais pas, 6 ans que j'ai plus écouté la radio. Enfin, maintenant, tout le monde est sur des playlists, et sur Spotify, et sur Apple Music, et se fait ses propres trucs. Je veux dire, la radio, je pense pas que ça représente du tout ce que les gens écoutent, en tout cas, les gens qui s'intéressent un minimum à la musique, pas voilà, n'importe qui va travailler, ça, évidemment, les gens écoutent la radio, mais si tu t'intéresses à la musique, tu fais l'effort de...
Je suis un peu plus mesuré sur cette question dans le sens où, comme j'essayais de le rappeler tout à l'heure, la musique, ça reste un loisir. L'écoute de musique, ça reste un loisir de masse. J'ai plus le chiffre, mais la plupart des Français écoutent de la musique en réalité. Et le vecteur principal de découverte musicale aujourd'hui reste encore la radio, dans des chiffres récents.
Ah ouais.
Oui, absolument. Et en fait, il faut, je pense qu'on il peut y avoir un biais parfois, notamment à travers les plateformes de streaming. Les consommateurs ne sont pas encore le grand public dans le streaming. C'est-à-dire que tous les jeunes écoutent effectivement beaucoup avec le streaming. Toutes les générations ne sont pas encore emparées du streaming, même si c'est de plus en plus le cas, etc. Et je pense vraiment qu'on a une vision, tout comme la prédominance du rap est extrêmement poussée par les plateformes de streaming, en réalité, à l'échelle mondiale, le style qui reste le plus fort, c'est le pop-rock, encore aujourd'hui, tu vois, dans le monde. Donc, et même en France, ça reste très important, la variété, la pop, le rock. Donc, c'est plus une question, je crois, de point de vue, d'adéquation aussi avec son époque. Et les grands mouvements musicaux, ceux qui sont vivaces, tu vois, le truc où il y a du bouillonnement, que moi j'adore, c'est la jeunesse en général, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'un mouvement musical, quand il pète, c'est parce qu'il y a des jeunes derrière qui ont faim. Et forcément, il peut y avoir, tu vois, une forme de... Enfin, il y a un décalage avec les générations précédentes qui vont... Les puristes, en l'occurrence, qui vont dire « Ah, mais ça, avant, c'était mieux, etc. » Donc, c'est pas tant qu'on peut leur reprocher de pas s'intéresser, mais c'est aussi tout simplement que parfois, bah, t'es plus en adéquation avec ce qui se fait sur le moment, ça ne te parle plus, c'est pas grave en tant que tel, mais il y a aussi cette réalité à mon sens.
Sur le moment, il se fait encore plein de trucs, enfin je veux dire, si tu veux des trucs dans une esthétique de blues traditionnelle, etc., des groupes de blues actuellement, il y en a plein. Si tu te plains de pas les entendre à la radio et que tu dis cette époque c'est de la merde musicalement, parce qu'il y a pas ce que j'écoutais moi quand j'étais jeune qui passe à la radio... Bah, oui. C'est là que tu te mets le doigt dans l'œil, tu vois.
Non, mais je suis d'accord, la seule différence, c'est que les gens aujourd'hui qui cracheront sur le mainstream en disant c'était mieux auparavant, c'est pas parce que c'était des chineurs auparavant, c'est parce que les groupes qui étaient déjà énormes à leur époque leur parlaient plus. Tu vois, c'est juste ça. La démarche est commune. Après, tu auras évidemment les passionnés qui eux vont aller chercher et l'offre est tellement énorme que tu trouveras toujours un truc qui te plaît. Ça, c'est certain.
Ouais,
mais tu vois, c'est que.
Ouais. Bien sûr.
C'est pour ça que moi, je suis pas très mesuré avec les puristes parce que je me dis, c'est quelqu'un. Qui se laisse genre nourrir dans la bouche comme ça et qui dit ah c'est pas bon, mais si c'est pas bon gros va chasser. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, non carrément je vois, mais bon c'est vrai que il faut reconnaître, tu vois, que mais ça c'est avec l'évolution aussi du marché musical et tout, mais c'est vrai que quand tu regardes dans les années 80-90, enfin plutôt 70-80, les plus gros vendeurs de disques et tout, c'est vrai que c'était un qualitativement, musicalement, tu vois, si tu essaies d'être objectif en mode la recherche qu'il y a eu sur les morceaux et tout, c'était quand même plus chiadé que ce qu'il y a maintenant. Mais parce que maintenant, justement, avec les technologies modernes et tout, tu arrives à pondre des trucs vachement plus facilement. Et surtout, je pense que les labels et tout se sont rendus compte que les gens, de toute façon, ils bouffaient ce que t'es, un peu ce que tu leur donnais, quoi. Donc, ils voient pas pourquoi ils s'emmerderaient à faire des trucs très compliqués où justement, tu vois, là, je suis en train de préparer une vidéo sur Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, c'est un truc, ça a mis 6 semaines à être enregistré, ça a coûté je sais pas combien. Je veux dire, tu vois, les gars, maintenant, ils ont plus envie de dépenser des millions pour un titre qui va être sur un album, quand tu peux pondre à la chaîne plein de trucs. Et tu vois, c'est le côté business. Mais c'est là où on en revient au fait que si jamais tu t'intéresses un peu à la musique, il faut absolument te détourner des gros réseaux de distribution et faire toi-même ton petit marché ailleurs, soit en streaming, sur Internet, n'importe où. Et surtout que c'est très facile à faire maintenant.
Tu peux simplement kiffer ce qui est proposé, mais si tu kiffes.
Aussi, bien sûr.
Mais si tu kiffes pas, ne te plains pas si tu cherches pas, quoi, tu vois.
Exactement. Et c'est ça, si tu te plains, tu peux trouver autre chose, il n'y a pas de souci, quoi.
Après, la critique qu'on peut entendre, c'est effectivement, et d'ailleurs, tu commençais à le dire, Florent, c'est qu'il y a aussi une logique industrielle qui parfois peut être énervante, mais qui en réalité a toujours existé pour moi dans l'industrie musicale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de la musique enregistrée, ça devient un business et on met en avant, même dans les années 60, il y avait du tube dégueulasse, enfin, du single pas très bon, etc. Et c'est juste, je peux comprendre effectivement l'énervement parfois des gens, mais pour autant, comme on le disait, il y a une offre tellement, tellement large, tellement variée. Et en même temps, c'est pas facile de faire le tri, les gars, aussi. Hein. C'est-à-dire que nous, je pense qu'on est des gros passionnés, qu'on passe du temps là-dedans. Combien de personnes je connais vont me dire « Mais moi, j'arrive pas à être orienté, à savoir quoi choisir, comment écouter, comment découvrir un nouveau groupe. » Ah, je t'assure, mec,
moi,
c'est très courant.
Tu vas dans des playlists Spotify, c'est fait, tu
mais,
vois.
Mais parce
quand
que
tu tapes un style, un artiste, pouf, t'as les trucs,
mais parce que c'est pratique de son naturel, mais je t'assure que c'est pas le cas pour beaucoup de gens, y compris même de ma génération. Enfin, j'ai 32 ans, tu vois. C'est...
Ouais.
Je sais pas ce que t'en penses, Florent.
Ouais, bah effectivement, je pense que, enfin, de toute manière, on n'est jamais objectif quoi qu'il arrive. Mais je pense que nous, on est tellement dedans, enfin, on fait ça H24 tout le temps, c'est sûr qu'on peut même pas se mettre dans la situation du père de famille tranquille, tu vois, qui aimait bien écouter de la musique au lycée et qui aujourd'hui a 40 balais et il veut découvrir des trucs, mais c'est pas trop comment s'y prendre. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je sais pas trop comment on pourrait changer ça. Mais voilà, c'est vrai que notre manière de consommer de la musique en 10 ans, elle a tellement changé. que en fait c'est devenu tellement naturel qu'on pense même plus autrement que comme ça, quoi. Et c'est des questions qui sont super compliquées. C'est très difficile de se mettre dans la peau de d'autres profils, quoi, que le nôtre, surtout sur ce genre de choses là, quoi.
Je pense qu'il est temps qu'on passe à la deuxième partie. On a essayé donc là de s'interroger sur la place de la guitare dans la musique, dans la production musicale d'aujourd'hui. On a vu quand même qu'il y a encore beaucoup de choses qui se font, mais c'est peut-être un marché plus fragmenté, plus de niche, etc. Nous, un truc qui nous intéressait aussi avec Michel, on s'est dit, il faut aussi qu'on parle des guitaristes du quotidien, des gens comme nous, en fait, qui sont pas des artistes reconnus ou des grandes stars ou je ne sais quoi. Bon, Florent, toi, tu sors quand même des morceaux. Chrono aussi. Alors, je veux dire, comme moi, en fait, ce sera plus simple. Moi, tu vois, je suis un guitariste avant tout dans ma chambre, tu vois. Et pour autant, les nouvelles approches de la guitare, le fait que la guitare soit moins mise en avant dans plein d'aspects de la musique d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça modifie notre rapport aussi, juste, tu vois, à l'échelle personnelle du quotidien, de comment on joue, comment... Est-ce que, par exemple, vous avez une idée, les gars, de la pratique de la guitare encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle est en difficulté? Est-ce que ça se vend encore des guitares? Florent, t'as été prof, est-ce qu'on trouve facilement encore des élèves, tu vois?
Ouais, alors... Dans mon cas, j'ai jamais eu de problème pour trouver des élèves. Il y a toujours beaucoup de gens qui sont intéressés. Mais c'est vrai que ce qui est marrant, c'est que dans les profils que j'ai très peu d'ados. Ah. J'ai vraiment très peu d'ados. J'ai beaucoup de papas, dont on parlait tout à l'heure, qui ont 35-40 ans, qui s'y remettent parce qu'ils commencent à avoir le temps, qu'ils ont la thune, tu vois, et qu'ils en faisaient un peu au lycée. Ou sinon, j'ai des jeunes enfants, tu vois, qui veulent faire de la guitare, soit parce qu'ils trouvent l'instrument cool visuellement, soit parce que c'est les parents qui les y mettent. Mais j'ai jamais eu de problème pour trouver des élèves, mais c'est vrai que j'avais toujours eu très peu d'adolescents dans les classes, quoi, en général, quand j'étais prof. Mais ouais, effectivement, c'est sûr que maintenant, pour les ados, la guitare est beaucoup moins sexy que ce que c'était avant, quoi. Ne serait-ce que ma génération à moi, tu vois, qui est pas, enfin, tu vois, moi j'ai 27 ans. Quand j'étais au lycée, c'était un peu, on va dire, la fin du punk rock, pop punk, tu vois, tous ces mouvements-là. Donc, t'avais encore le côté sexy et tout machin, et très vite, c'est parti. Et effectivement, il y a eu un gros trou après ça où la guitare était beaucoup moins sexy pour ces générations-là. Mais j'ai l'impression que c'est en train de revenir justement avec. Tous les gars dont on parlait avant, les Tim Henson, les trucs comme ça, j'ai l'impression que ça revient de plus en plus, l'envie de faire de la guitare chez les jeunes, quoi.
Michel, ouais, t'as une vision, toi, un peu de ça, de l'envie que provoque la guitare chez les jeunes notamment? Est-ce que ça intéresse toujours, tu vois, dans les musiciens que tu fréquentes, dans les jeunes, je sais pas?
Je t'avoue que non, moi, les musiciens que je fréquente, ils ont mon âge, et moi, j'ai l'impression que le rock, c'est sûr, en tout cas, le rock traditionnel, on va dire, est en très nette perte de vitesse depuis un certain temps. Après, il reste un public pour ce genre de formation instrumentale, tu vois. Et d'un côté, je pense que t'as les gens qui innovent vraiment, genre, on parlait de Polyphia, on parlait de Animals Leaders, enfin, tu vois, de ces gens-là. Et puis, il y a aussi tout le revival nostalgique des, justement, quarantenaires, cinquantenaires, etc., qui kiffent de ouf les groupes de cover et ce genre de trucs, mais qui, j'ai l'impression, sont moins prêts à entendre des nouvelles choses, quoi, tu vois, enfin, des compos. Genre, ce que moi, j'entends beaucoup parmi mes potes qui sont musiciens et qui sont pas du tout soit électro, soit trap, etc., mais qui sont dans la tradition pop-rock et tout ça, c'est les groupes de compos. La plupart des gens s'en battent les couilles. Ce qui paye, c'est le cover, tu vois. Ce que les gens veulent entendre, c'est des chansons qu'ils connaissent déjà. Et pour ce qui est de la jeunesse, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, tu vois. Je connais pas assez des petits jeunes, tu vois, pour vraiment avoir une opinion sur ce truc-là.
Mais il y a un espèce de paradoxe. Pardon, je te coupe. Il y a une espèce de paradoxe. À la fois, on disait qu'en réalité, la guitare était toujours présente dans la production musicale d'aujourd'hui, mais d'une autre manière, qu'elle était peut-être moins mise en avant. Et on dit en même temps qu'il y a un désamour un peu de la guitare, et tout de suite on dit parce que les gens s'intéressent moins au rock. Est-ce que ça voudrait dire que les styles musicaux aujourd'hui, même s'ils emploient encore la guitare, ils te poussent quand même moins, ils te font moins rêver à jouer de la guitare
Ouais, c'est sûr, mais parce qu'il y a un moment où t'as eu une déification presque du guitariste, tu vois. Je veux dire, tu vois, David Gilmour, ce genre de gars, c'était des dieux, quoi. Déjà parce que à l'époque t'avais pas tous les réseaux sociaux, donc maintenant c'est vrai que n'importe qui, tu te sens vachement proche de lui, oui. Tu vois, Tout le monde, quand on t'envoie un DM ou quoi, tout le monde te tutoie. Tu vois,
ça je veux dire, une barrière d'une certaine manière, quoi.
Tim Henson, quand il va au shot, il poste une story, tu vois. Enfin, voilà, t'as vraiment la proximité qui fait que t'as plus ce côté de vénération et mystère que t'as autour du truc. Donc, déjà, voilà, forcément, le truc, c'était Gilmour, le mec, c'était waouh, tu vois, tout le monde était en mode comment il fait et tout. Alors qu'en vrai, des mecs qui jouent aussi bien que Gilmour, entre guillemets, aujourd'hui, t'en as toujours plein. Tu vois, je vais me faire tabasser pour avoir à dire ça. Mais tu vois, il faut reconnaître le truc. C'est que t'avais aussi une mythologie autour des artistes et tout que t'as plus forcément maintenant. Et t'as aussi que maintenant, effectivement, c'est les producteurs sont un peu en train de voler, le producteur au sens américain, quoi. Les mecs qui font les prods sont un peu en train de voler la vedette, justement, aux musiciens de l'époque. T'as toujours les grosses têtes d'affiche, les mecs qui posent, les rappeurs, tout ça. Et en gros, ce qu'il y a derrière, direct, c'est pas le mec qui a fait la ligne de piano sur le morceau, c'est le mec qui a produit la track. Ouais. Et je pense que c'est en fait les jeunes se voient beaucoup, enfin rêvent beaucoup plus facilement du rôle de producteur que du rôle de musicien maintenant. J'ai l'impression, tu vois.
Ouais, je pense aussi, c'est ce que j'ai l'impression, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que j'avais fait notamment des que soit dans les conventions, soit j'avais été dans une colo, ils m'avaient invité en tant que youtubeur musical, etc. Et les petits me parlaient que de ça, tu vois. C'était genre, ouais. Sur quel logiciel est-ce que je peux faire des prods et nanani, nanana, tu vois. Pour moi, c'était plus ça que... Enfin, il n'y en a aucun qui m'a parlé de guitare, tu vois. Après, moi, je ne suis pas arrivé là avec une guitare non plus, tu vois. Donc, ça doit jouer aussi, forcément. Mais j'ai l'impression, effectivement, que dans l'inconscient collectif jeune, c'est le beatmaker, le musicien, tu vois. C'est genre... Enfin, après, moi, c'est un truc qui me plaît bien aussi. Moi, je me suis toujours... J'ai commencé par la guitare et très vite, j'ai eu la flemme d'apprendre des morceaux. J'ai voulu composer directement, avoir des pièces pour guitare toute seule, ça m'intéressait pas, donc j'ai commencé direct à faire des trucs, etc., des chansons pour groupe, et puis après à commencer à faire des trucs orchestraux et des trucs comme ça, et ouais, je sais pas, ça me paraissait plus intéressant de faire tout, genre tu commences, t'as rien, et à la fin t'as un morceau et tu peux l'écouter tout seul, t'as besoin de personne, t'as besoin de, enfin tu vois, ton truc, tu fais tout de A à Z, tu vois. Et cette mentalité-là, je pense que dans la jeunesse, il y en a beaucoup qui s'y reconnaissent.
Carrément, carrément. Et t'as deux éléments super importants là, dont t'as parlé. T'as un truc qui est une vision un peu plus pessimiste des choses, qui consiste à voir que globalement, perso, c'est l'impression que j'ai, les jeunes générations ont plus du mal à se consacrer à fond à un seul truc. Tu vois ? Parce que maintenant, t'as accès à tout tellement facilement que c'est moins facile de dire, bah, ce soir, je me pose et je fais une heure et demie de guitare et je relève le solo de ce morceau que j'aime bien, quoi. Parce que t'as trop de trucs qui viennent perturber ton attention et tout. Et donc, ça, c'est le côté un peu pessimiste du truc, mais t'as aussi le côté, voilà, maintenant, t'as la technologie pour pouvoir faire à toi tout seul un morceau entier.
Ouais.
Donc, t'as plus envie de consacrer du temps à réaliser un morceau entier et kiffer ton truc de A à Z plutôt que juste te concentrer sur un tout petit bout, une partie de guitare, par exemple. Et là, c'est moins satisfaisant au final, quoi.
Et puis, il y a un truc, effectivement, c'est à l'image de notre société, fondamentalement, tout ça. C'est-à-dire que l'individualisme, les pratiques un peu de son côté se répandent de plus en plus. Et là où un mec avait envie de se mettre à la guitare avant pour être avec ses potes et trouver un bassiste, un batteur, etc. Puis on va tous les deux jours faire des répètes ensemble, on se marre. Et ben, effectivement, tu préférerais être tout seul sur ton ordinateur. Alors, ça peut paraître comme ça un peu un discours de vieux con, mais c'est une réalité, à mon sens. Et la notion aussi de partage avec d'autres musiciens n'est plus du tout la même, ou alors ça se passera par une collab, par internet, etc.
Ouais,
et
voilà.
Je pense que ça poussait aussi pas mal d'instrumentistes auparavant à se mettre un instrument, parce que t'as besoin des autres quand tu te mets un instrument pour faire un ensemble, et cette envie, elle est plus vraiment là, j'ai l'impression.
J'entends de ouf, et j'adore faire de la musique, et même si moi, de manière générale, je suis plutôt à tendance solitaire, genre j'adore partager ce genre de moment là avec des gars et tout, tu vois. Mais ce que j'ai l'impression qui a changé dans la génération qui arrive, comparé peut-être aux générations précédentes, c'est que pour beaucoup, la musique, c'est devenu potentiellement un moyen de vivre et de faire de l'argent, tu vois. Et en fait, quand toi, t'as des ambitions, et là, je parle de mon vécu personnel, tu vois, mais quand toi, t'es déter à te dire « je vais vivre de la musique », etc., et que t'es dans des projets où t'as l'impression, en tout cas, c'est peut-être pas forcément vrai, tu vois, mais t'as l'impression d'être le seul à te sortir les doigts du cul pour que le projet il avance un peu, et ben très vite, peut-être pas très vite, moi pas très vite, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ben écoute, on va limiter les paramètres qui peuvent influer.
C'est des emmerdes, la vie de groupe aussi,
sur
c'est
ce
sûr.
Truc-là, tu vois. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc à partir du moment où c'est plus une nécessité, Je pense qu'on peut très bien comprendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois. Je me suis dit, bah, en fait, je vais essayer de trouver des projets que je peux faire tout seul.
Et puis,
j'ai fait des rototos.
Ouais, je suis entièrement de ton avis. Ouais. C'est exactement la même expérience que j'ai eue. Moi, j'ai eu pas mal de groupes et tout. Et c'est vrai que c'est extrêmement dur de trouver des mecs qui ont les mêmes objectifs que toi. Enfin, des mecs ou des filles qui ont les mêmes objectifs que toi, qui sont sur la même longueur d'onde musicalement parlant, tu vois, qui ont la même manière de bosser. Déjà, ça, c'est vraiment extrêmement dur, qui vont être fiables sur une période de temps assez longue pour pouvoir faire un projet sérieux, solide et tout. Et voilà. Et c'est vrai que, en fait, il y a un moment où tu dis, bah, écoute, je vais faire tout moi. Au moins, ça va avancer vite. Ça va avancer comme je le veux, tu vois, dans la direction que je veux. Et voilà, si j'ai pas de bol, eh ben, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais testé. J'aurais pas attendu que mon collègue, il se bouge alors qu'il faut rien depuis 2 ans. Et c'est vrai que ça, je pense, c'est un truc qu'on a tous eu, en fait. Quand tu joues en groupe, très vite, tu te rends compte que tout le monde n'a pas forcément les mêmes aspirations, quoi. Et c'est ça qui est galère. Et surtout quand t'es pas forcément dans une grande ville. Tu vois, je sais pas si sur Paris c'est différent ou quoi. Moi, j'étais pas sur Paris. Tu vois, en plus, en général, les gens souvent ont des ancrages et on pense tous, tu vois, quand t'es au collège, lycée, que tu peux pas vivre de la musique, que c'est pas un vrai métier. Donc, trouver des gens qui sont prêts à se lancer à fond là-dedans, c'est très très compliqué, quoi. Et en plus, Internet maintenant te permet justement, une fois que tu commences un tout petit peu à te faire connaître, de rencontrer par contre des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Et là, effectivement, c'est comme tu disais, ça part sur des collabs, ça part sur des trucs comme ça. Mais par contre, au moins, voilà, tu travailles avec des gens qui sont dans le même délire que toi, avec lesquels tu as envie de bosser. Et t'es pas, tu vois, à tirer les bœufs, quoi, en mode « Allez, les gars, on y va tous les jours à relancer tout le monde. » Donc forcément, ouais, c'est sûr que ça joue.
Comme tu disais, Salman, je sais plus ce que je voulais dire. Pardon, je t'ai coupé vraiment pour rien.
On coupera. Ah, on fera un petit... ouais, yes, ou on la garde.
Attends, je sais plus. Tu disais quoi juste avant?
Que c'était galère de trouver des gens avec qui jouer. Que quand tu bosses tout seul, après, tu fais des collabs avec d'autres gens, mais avec des gens que tu sais.
Voilà, exactement, tu vois. Exactement, tu vois. Ce que je voulais dire, c'est que... ça n'empêche pas du tout de faire des collabs ponctuels, etc. Mmh. Tu fais des feats avec une personne, même tu fais un EP ensemble, etc. Mmh. Mais le corps de ce que tu produis musicalement, il se fait via toi, par toi, etc. Parce que comme ça, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et t'arrêtes d'être frustré pour rien. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas, tu vois. Parce que je me dis, c'est de ma faute, en fait, si je suis frustré. Je me mets dans des projets avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes aspirations que moi. Et en plus, comme je le disais dans ma dernière vidéo où je faisais un peu une rétrospective de ce truc-là, c'est en plus... Genre, j'avais beaucoup de mal à les laisser s'exprimer, donc il y avait vraiment un espèce de non-sens là-dedans qui, tu vois, que j'ai dû, au bout d'un moment, il fallait que je coupe, quoi, sinon, enfin, c'est bon pour personne, tu vois. T'es là, t'es un dictateur et puis, tu rages tout seul dans ton coin pour rien,
tu vois. Dans tous les cas, comme dans toute généralité, il y a une limite aussi à ce que je disais, c'est que, par exemple, je vois que dans le rap, il y a encore cette culture qui reste, tu vois, de mecs qui rappent ensemble, qui freestyle, qui battle, etc. Alors, c'est peut-être moins important qu'à une époque, je sais pas, je suis plus assez dans la scène pour vraiment le voir, mais il y a eu un vrai truc encore jusqu'à il y a peu de temps dans le rap, tu vois, de partage, ne serait-ce que le rapport rappeur beatmaker par exemple, qui peut se faire certes à distance, mais qui se fait aussi beaucoup tu vois, ensemble, etc. On travaille vraiment ensemble, donc c'est évidemment, je parlais de manière trop générale, mais comme vous l'affirmez vous-même apparemment, il y a quand même ce truc effectivement de se dire bon, être vraiment dans une ambiance de groupe, c'est complexe, et parfois, notamment dans une optique de professionnalisation, c'est plus simple de tout gérer soi-même, quoi.
Ouais, voilà. Surtout à l'heure actuelle, tu vois, à l'époque où c'était pas possible, bah, effectivement, tu mords sur ta chic, tu vois. Mais la solution de facilité, là, maintenant, ouais, je pense, c'est... si t'as du mal avec les rapports sociaux, avec mélanger ta sensibilité avec d'autres personnes, etc., bah, tu le fais tout seul, et là, au moins, comme ça, t'es tranquille, quoi.
C'est ça. Et même dans les situations dont tu parlais, où c'est un rappeur avec un beatmaker ou quoi, t'as quand même une hiérarchie dans la création artistique qui s'installe. C'est très rare d'avoir une collaboration à parts égales dans le truc.
Mais dans un groupe de rock, c'est le cas aussi souvent. C'est-à-dire que t'as les mecs qui composent, qui écrivent les paroles, etc.
Bah, de plus en plus, c'est ça. Mais disons qu'elle est déjà préétablie. Quand c'est un rappeur qui vient te voir en disant j'ai un projet, je veux ce style-là de truc et que t'apportes des idées, il va te dire non, ça non. Mais disons, ou inverse, quand c'est un prod, tu vois, machin qui arrive. Mais dans un groupe, en général, il y a la question, le jeu des égos et tout est vachement plus fort, je trouve, dans un groupe un peu à l'ancienne, tu vois, à la Oasis ou quoi, où chacun veut imposer sa vision du truc, chacun veut... C'est pas juste
exemple,
que lui... non, mais forcément. Mais tu vois, je trouve, t'as plus... Je regardais aussi une interview de Billy Corgan des Smashing Pumpkins il y a pas longtemps. Tu vois, une fois, il avait fait une couverture d'un magazine et il était tout seul sur la couverture, il n'y avait pas les autres gars, et les autres gars avaient pété un câble, et c'est suite à ça qu'ils sont séparés, enfin c'était à peu près ça l'histoire, et disons que voilà, je trouve c'est le rapport rappeur-beatmaker, c'est plus préétabli qu'il y en a un qui drive très clairement artistiquement le projet, et ça va pas trop rentrer dans une bataille d'ego ou ce genre de choses. Mais ça, c'est peut-être aussi dû à mon expérience ou à ma vision des choses. S'il faut, j'ai pas connu les bonnes choses. Je sais pas, hein, je m'avance pas plus que ça, mais c'est l'impression que j'ai, quoi.
Il y a plein de profils, moi, un artiste que j'aime beaucoup, notamment sur la scène rap. Et en même temps, c'est très dur quand même de le limiter au côté rap, mais c'est Némir. Et Némir, il travaille beaucoup avec un producteur qui s'appelle Enzo. Et Némir le dit tout le temps en interview. Némir, c'est la façade de ce truc-là, mais en gros, Némir, c'est un projet à deux, quoi, tu vois. Et il y a aussi notamment le dernier groupe qui a bien popé, c'est 13 Blocs, avec Fuck le 17, que tout le monde a entendu. Il y a eu ce truc-là. Et là-dedans, ils sont au moins trois. Je ne suis pas ardemment, tu vois. J'ai écouté quelques morceaux, j'ai regardé quelques interviews. À chaque fois que je regardais des interviews, ils étaient que trois. Ils sont peut-être que trois. Mais en tout cas, il y a au moins ce gros mélange de sensibilités-là, et eux, ils expliquent eux-mêmes que c'est pas forcément tous les jours facile humainement, etc., mais que ils pensent qu'ils sont plus forts ensemble, tu vois.
De toute façon,
il reste cette mentalité-là.
À partir du moment où il y a professionnalisation, il y a équipe, c'est obligatoire, et je pense dans tous les domaines. J'entendais, tu parlais, tu avais regardé une interview de Billy Corgan, c'est plus classe que moi, mais moi, c'était une interview de L.E.J., et elle racontait qu'en fait, il y a un quatrième membre, en fait, un mec, en l'occurrence, qui j'imagine qui produit, qui compose en partie avec elle, je me rappelle plus les détails, mais où clairement, elle disait, en fait, c'est un membre à part entière, seulement, oui, il n'est pas sur le devant de la scène, mais il est essentiel au projet, et je pense que c'est valable pour quasi tous les projets artistiques, de manière générale, c'est, ne serait-ce que pour la com, le management, etc., il faut toujours collaborer avec des gens, il faut toujours échanger, et parfois, en plus, ils prennent aussi part à la création de la musique, mais oui, c'est une réalité, c'est sûr.
Pas toujours, mais en tout cas, c'est sûr que...
Souvent, ouais.
Il y a un moment où, pour optimiser, ouais, je pense que c'est bien de... Enfin, tu peux pas être compétent sur tout, tu vois. Évidemment. Particulièrement, tu parlais de la communication. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, Florent, mais j'ai l'impression que c'est un des axes que le... Je sais pas comment dire, beaucoup d'artistes ont du mal à faire cohabiter ces deux trucs-là, tu vois. Genre, esprit artistique, vision artistique forte, et capacité à l'exprimer à travers les réseaux sociaux, notamment, tu vois, ou simplement, enfin... De manière générale, communiquer là-dessus. Je connais, moi, beaucoup d'artistes qui sont archi forts et qui eux-mêmes se définissent comme des types complètement nazes en communication et ils savent pas se vendre, tu vois. Donc, ne serait-ce que pour ça, obligé à... En tout cas, je pense qu'il y a une bonne partie des artistes qui ont besoin de ça, tu vois.
Je rebondis sur... Tu parlais, anecdote, hein, mais juste des interviews de Billy Corgan. Je les trouve super intéressantes, notamment quand il parle, effectivement, de ce qui a foutu en l'air Smashing Pumpkins, du rapport à l'argent, notamment. Par exemple, il disait qu'il était crédité, lui, en tant que compositeur, ce qui n'était pas le cas des autres, etc. Et que ça a foutu un bordel monstrueux. Et il est assez pertinent, avec du recul aujourd'hui, parce qu'ils l'ont bien... Ils ont bien galéré. Et j'invite, effectivement, ceux qui nous regardent à écouter les interviews de Billy Corgan. Elles sont assez intéressantes.
C'est ça, ouais, c'était le podcast sur Joe Rogan.
Eh oui, et bah, c'est celui-là, effectivement, absolument.
Ouais, ouais. Elle est top, ça dure longtemps, mais c'est excellent. Ouais. Genre, tout ce qu'il dit, c'est vachement intéressant.
Ouais, carrément. Les gars, est-ce qu'on passerait pas à une autre partie, là, toujours un peu autour des guitaristes du quotidien, les nouvelles approches de la guitare, etc. On a commencé à l'aborder un peu en parlant des nouvelles stars, entre guillemets, de la guitare, mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit jouer différemment en tant que guitariste? Est-ce qu'on compose différemment? À une époque, le jeu blues rock était vraiment ce qui était le plus dominant. J'ai l'impression que ça a quand même vachement évolué d'un point de vue technique. On pourrait même parler aussi un peu de la façon dont on produit le son de guitare. Florent, toi, j'imagine que tu as vraiment une vision là-dessus, tu vois. Est-ce que le gratteux, adolescent ou pas d'ailleurs, mais dans sa chambre, il joue de la même manière qu'il y a 20, 30, 40 ans?
Bah, ça, c'est sûr que non, parce que comme on l'a dit, les styles ont vachement évolué et forcément, tu t'inspires des techniques passées, mais en te les réappropriant un petit peu, en les modifiant un petit peu. Après, c'est vrai que la base blues, tu vois, vraiment la base blues reste quand même très présente dans beaucoup de choses, parce que le blues a tellement mis en place de techniques, tu vois, tout ce qui est bend, phrasé très pinta, la guitare, c'est un instrument qui est très basé sur la pinta, c'est facile à faire dessus, ça sonne très bien dessus. Donc, la base un peu pinta et bend, elle reste. Tu vois, et on parlait de Tim Henson, il joue très pinta, il a un jeu qui est très très pinta, et avec beaucoup de techniques dont l'origine est du côté du blues. Après, forcément, ça a été mélangé à tellement de choses que quand tu l'écoutes, tu dis pas « Ah putain, il sonne blues, tu vois, Tim Henson ». Non, ça change, mais par contre, si tu creuses un petit peu, les racines sont de ce côté-là. Après, effectivement, t'as toujours des nouvelles générations de guitaristes un peu blues rock qui sortent, mais ça va plutôt être du côté des US. Tu vois, t'as un mec qui s'appelle Kingfish, enfin c'est son pseudo, qui est sorti, qui joue terrible, un black super jeune et tout, qui joue incroyable et tout. Mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus rare de voir ça en Europe, encore plus en France. Et forcément, c'est plus facile de tirer ton épingle du jeu en surfant sur des tendances plus modernes qu'en faisant du blues rock, où mine de rien, t'as quand même assez vite fait le tour maintenant. Et puis voilà, c'est sûr que la pratique de la guitare maintenant, quand tu postes une vidéo sur Instagram, faire ton petit solo en penta classique, ça suffit plus forcément pour que les gens se disent « Ah, j'ai su ce gars-là, ça va être intéressant, quoi. » Forcément, il faut avoir une approche un peu plus personnelle, quoi. Avoir une proposition artistique plus forte.
C'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais moi, je pense tout de suite à deux exemples de superstars, entre guillemets, de la guitare qui sont devenu connu grâce à Instagram. Je pensais à Melanie Faye, dont on parlait tout à l'heure, et à Matteo Sassato. Toi, d'une certaine manière aussi, alors t'as tes vidéos YouTube, mais tu postes beaucoup sur Instagram de choses, de guitare, de passages, etc. Un peu à la manière, tu vois, des plateformes de streaming ou des types de disques qu'on utilise, tu vois, le support modifie toujours la façon dont on fait de la musique. Est-ce que tu penses que le fait qu'on fasse des trucs plus courts sur Instagram, tout ça, etc., ça pousse les guitaristes à composer différemment?
Ah ouais, ça c'est sûr, complètement. Complètement. C'est maintenant, de toute façon, globalement, vu que la proposition musicale, elle est vachement plus vaste, t'es obligé d'aller plus vite à l'essentiel. Mm-hmm. Et ça, pareil, j'en parle souvent dans mes vidéos. Alors ça, bien sûr, on peut trouver que c'est dommage, mais c'est juste une autre manière de percevoir la musique. Mais c'est vrai que maintenant, sur Instagram, t'as intérêt à ce que, dès les 3 premières secondes de ta vidéo, il y a un truc intéressant, quoi. Mm. Que ça soit au niveau de l'image, mais aussi et surtout au niveau du jeu, quoi. Il y a un truc où tu balances une technique, tu vois, ou un truc où les gens se disent « Oh là, comment il fait ça ?» Et c'est là que c'est intéressant. Donc effectivement, le support que tu utilises a modifié. Tout comme, tu vois, quand on est passé du vinyle au CD, en fait, le vinyle, tu pensais vraiment ton truc face A, face B, tu avais vraiment une manière de penser la musique. Après, ça a changé. Maintenant, on fait beaucoup moins de CD, on fait plus des EP, où carrément, les artistes sortent directement des singles. Donc ça, c'est sûr que ça influence directement, le support influence directement la manière de composer et de penser la musique, quoi.
T'as une vision, toi, là-dessus, Michel, ça te parle, notamment, toi, en plus, t'es sur les réseaux vachement, etc., tu vois, même si on va au-delà de la guitare, tu vois, les nouvelles manières de composer à l'ère des réseaux sociaux.
Moi, j'ai pas vraiment d'opinion sur la manière de composer, sur l'influence des réseaux sociaux sur la manière de composer, à part peut-être sur la longueur, tu vois. On parlait des Chicanito, mais tous les guitaristes Instagram, entre guillemets, ouais, tu fais des compos d'une minute pour la balancer sur le truc, t'en fais peut-être jamais rien derrière, tu les mets peut-être sur Spotify derrière, etc. Pour moi, c'est essentiellement ce truc-là qui a changé dans la manière de produire aussi. Je pense que simplement, toute l'industrie s'est accélérée et que on va pas attendre, enfin, ça dépend qui, tu vois. Si t'as un nom déjà, etc., mais quelqu'un qui débute, etc., on va pas, tu vas lâcher ton album, et puis après, tu vas rien sortir pendant 3 ans, enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai l'impression. Donc, c'est une track par mois, une track par semaine, kicker ça dans le rap, ils avaient fait ça, mais j'imagine qu'il y a des guitaristes qui font ça aussi dans ce milieu-là. Et je pensais aussi à tout l'aspect ludique, tu vois. Genre là je vais parler youtubeur, mais Davy504 qui est un bassiste pour le coup, tu vois, lui il a vraiment un lien très fort avec sa communauté. Je pense aussi à Ichikanito où il y a énormément de défis, mais notamment sur la chaîne de Dave, il y avait ce truc où pendant hyper longtemps tous les commentaires c'était pas mal, mais est-ce que tu saurais genre jouer j'en sais rien moi Deep Purple en étant habillé en mauve, tu vois, ou des trucs comme ça.
Et on a joué, il a complètement repris ça, c'est génial.
Ouais, voilà, c'est ça. Et ce truc-là, ouais, enfin, je pense que l'aspect ludique, ça joue vraiment aussi énormément, tu vois. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça a jamais été le plus talentueux qui a percé, tu vois. Enfin, genre, j'ai l'impression que avoir une backstory intéressante, tu vois, avoir du charisme, etc., ça joue au moins autant que tes facultés techniques,
l'omniprésence dont on parlait, de ta musique. C'est toujours sortir des trucs, toujours être là.
Ouais, voilà. Mais en plus, aujourd'hui, je pense que vraiment l'aspect communautaire, donc vraiment échanger avec les gens en dehors de la musique, etc., je pense que ça fait partie des trucs qui font la diff, tu vois.
Ouais, pour rentrer peut-être un peu dans les détails du jeu de guitare d'aujourd'hui, j'ai l'impression, Florent, tu vas me dire si t'es d'accord, et même Michel, c'est un jeu beaucoup plus complet. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment le guitariste lead, le guitariste rythmique, les deux assez séparés. Et j'ai l'impression qu'il y a un aspect beaucoup plus percussif, main droite et en même temps un peu de tapping, etc. Il faut que ce soit à la fois mélodique et rythmique. Il y a vraiment un truc comme ça dans le son plus moderne et dans la technique plus moderne guitare de... d'être capable de, que ce soit un son ample et presque on pourrait penser qu'il y a deux grades, tu vois, un truc comme ça un peu dans le jeu. Est-ce que t'es d'accord avec ça?
Ouais, complètement. Et ça, je pense que c'est aussi la résultante d'un truc dont parlait Michel tout à l'heure. C'est que c'est vrai que la guitare, si tu te contentes de juste faire des solos ou juste faire de la rythmique, c'est très vite chiant. Ouais, et, ouais. Si tu postes une vidéo de toi qui fait juste la rythmique du morceau, ça va être relou. Alors du coup, forcément, je pense qu'il a fallu trouver une solution pour que tu puisses faire un morceau à toi tout seul. Quoi. Ouais. Et la solution, elle est très simple, c'est de mélanger les techniques de manière à ce que tu aies tout à la fois. Et ça, pareil, c'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'il y a une époque, c'était... vu que la guitare électrique telle qu'on la joue maintenant, c'est un instrument qui est quand même assez récent, entre guillemets, tu vois, ça a commencé à se développer vraiment années 50, quoi. Donc, t'as eu des gars comme Stanley Jordan ou quoi, qui très vite, un peu plus tard, faisaient déjà, en fait, ce truc-là de jouer à la fois des parties rythmiques, en tapping, main droite et tout, mais c'était très très rare et c'était considéré comme des virtuoses, tout ça.
Oui, c'est vrai.
Mais vu que globalement, enfin, comme dans tous les arts, toutes les sciences, le niveau est croissant en permanence. Et maintenant, un gars de 17 ans moyen est meilleur que des gars dans les années 70 de 40 ans, tu vois. Tout le monde progresse beaucoup plus vite. Maintenant, beaucoup de gens ont le niveau technique pour réussir à faire des trucs comme ça et avoir des propositions artistiques un petit peu différentes. Donc, c'est à la fois, je pense, ce besoin de pouvoir jouer tout seul et à la fois l'évolution technique qui a poussé dans cette direction-là, quoi. Où ça suffit plus de faire juste une partie ou l'autre, quoi.
Ouais, j'ai l'impression que avec les mains, tu vois, j'ai l'impression qu'on commence doucement à avoir fait le tour. Après, comme a dit Florent tout à l'heure, genre on croit toujours ça jusqu'au moment où il y a un type qui arrive et qui le fait, tu vois. Mais là, moi, ce que je me demande, c'est ouais, quel genre de sonorité est-ce qu'on va bien pouvoir continuer à amener sans dénaturer la guitare, en fait, tu vois, parce que ça s'entend encore sur le Polyphia que c'est de la guitare. Oui. Il y a des moments où tu commences à te poser la question de jusqu'où est-ce qu'on peut aller tout en gardant ouais, les caractéristiques sonores de la guitare. Après, c'est une question que les gens à l'époque de la distorsion ont dû se poser aussi, tu vois, mais genre si tu distors le truc, tu vois, qu'est-ce qui va te rester, machin,
c'est
ici. Je me demande.
C'est très intéressant.
Ça, tu le vois. Ouais. Ça, tu le vois dans le marché de la pédale pour guitare, quoi. Quand tu regardes le marché de la pédale pour guitare, ça a explosé ces dernières années et le nombre de marques qui se sont créées, les pédales boutiques, tu vois, qui sont des pédales un peu haut de gamme, fabriquées à la main dans des garages et tout. Et tu vois qu'en fait, les gens sont vachement plus à la recherche de trucs pour travailler la texture sonore que vraiment d'instruments, quoi. Il y a très peu de nouveaux modèles de guitare qui sortent. Les plus gros vendeurs, c'est les bonnes télé, les Strat, tu vois, les Les Paul. Mais par contre, les pédales, ça, par mois, t'en as 15 nouvelles qui sortent et toujours avec des approches différentes, quoi.
On a une transition parfaite pour vraiment aborder le dernier point dont on voulait parler dans ce podcast. C'est sur la production du son de guitare. Vous parliez des effets. Effectivement, il y a eu des grands changements. Je pense évidemment aussi aux amplis virtuels, etc. Le numérique de manière générale. Pour parler un peu de mon expérience personnelle, pendant 3 ans, j'ai testé du matos guitare pour un site qui s'appelle Audiofanzine. Donc j'ai eu pas mal de trucs en main. Et très clairement, j'ai vu que j'avais une sensibilité pour en fait un truc qui pourrait paraître pas ouf pour les puristes. C'est-à-dire que moi, je cherchais pas le crunch à la Stevie Ray Vaughan, etc. Tu vois, le truc... Moi, ce que je voulais, c'était un son ultra propre, de belles réverbes, des beaux délais. Et justement, parce qu'en fait, fondamentalement, un son très produit... pour tout de suite l'intégrer dans des trucs plus actuels, entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'il y a une offre qui s'est vraiment vachement développée autour de ça.
Ouais, ouais, ça c'est sûr. Moi, je vois, depuis que j'ai commencé la guitare, donc la guitare électrique, en tout cas, j'avais 12 ans, tu vois. En une quinzaine d'années, c'est incroyable l'évolution qu'il y a eu de ce côté-là, et surtout sur tout ce qui est technologie digitale et numérique. Je me rappelle, un des premiers multi-effets que j'avais acheté, c'était un Zoom. C'était une merde, mais j'étais trop content de l'avoir à l'époque parce que c'était les premiers, tu vois. Ouais. Mais quand tu vois maintenant ce qui se fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu vois, les Line 6 et tout te balançaient des trucs en mode, oui, on dirait vraiment un ampli à lampe et tout. Non, non, c'était pourri, évidemment. Ouais. C'était pas mal pour du digital, mais il y avait encore un gros écart entre les deux. Maintenant, t'as plein de blind tests sur Internet et tout. Maintenant, ça devient impossible d'entendre la différence, quoi. C'est impossible d'entendre la différence. Et moi, c'est vrai que la plupart des posts où j'enregistre l'audio et tout sur Insta, j'enregistre tout avec un plugin, tu vois. Et soit Guitar Rig, soit Archetype ou des trucs comme ça. Et ça sonne terrible. Et comme tu dis, en plus, t'as des textures et des trucs vachement différentes de ce que t'offre un vrai ampli. T'as de la stéréo tout de suite. T'as quelque chose de très produit, comme tu disais. Et c'est vachement plus facile. En deux clics, c'est réglé. Alors qu'à l'époque, si tu voulais faire de la stéréo, faut maquiller deux amplis et tout. Ouais.
Et en plus, t'as tout l'aspect communautaire aussi de ce truc-là. Parce que, enfin, moi, ça fait déjà un certain temps, mais il y a un moment où t'entends un nouveau son, justement, périphérie, tu vois. Tu dis, ah putain, le djent et tout. Moi aussi, je veux du djent. Bim, preset Guitar Rig, et t'avais bien toujours une dizaine de types qui avaient essayé de faire leur preset Misha Mansour sur Guitar Rig ou sur autre plugin, tu vois. Et donc, t'as tout ce truc-là aussi qui se fait. C'est, t'as un type qui sort du lot et hop, preset, ça copie son son, ça te les envoie en plugin. Après, toi, derrière, tu chipotes, tu fais d'autres trucs, etc. Mais... je veux dire, il y a aussi l'aspect, on communique ensemble sur ces trucs-là, tu vois. C'est vraiment, tu cherches ton son, mais en même temps, tu étais vraiment complètement baigné dans toutes les possibilités que tu as, qui sont maintenant infinies, quoi.
Bah, c'est ça. Et tu vois, moi, le plugin que j'utilise presque le plus en guitare, c'est Archetype Pliny. Tu vois, c'est l'ampli signature de Pliny. Alors que je fais pas du tout le même style, tu vois, que lui et tout. Mais c'est vrai que mine de rien, tu vois, ça, le côté artiste, il se rapproche vachement. Tu veux tel son, donc tu vas... c'est vachement plus accessible qu'avant. Si tu voulais le son de Slash, bah vas-y, claque 3000 balles dans un Marshall beaucoup trop gros pour chez toi, tu as 4000 balles alors que là, avec juste un plugin, tu peux, c'est vachement plus accessible, quoi.
T'as pas envie de craquer pour le Corey Wong, là, qui vient de sortir
Et justement, j'ai vu le Corey Wong sortir, j'étais dégoûté parce qu'ils ont fait des promos juste avant et j'ai acheté le Noli juste avant. Et j'étais là, ah putain, le Corey Wong vient de sortir, je vais pas en acheter deux d'affilée, là, et tout. Mais grave, j'ai grave envie de le tester, lui.
En fait, si on pouvait résumer, peut-être pour les gens qui sont un peu moins calés guitare, en offre numérique aujourd'hui, t'as vraiment les amplis purement virtuels en logiciel, en plugin, comme l'Archetype, etc. T'as après le hardware numérique type Kemper, Axefix, etc. Où là, c'est ce dont tu parlais, Michel, t'as 3000 profils qui reprennent 3000 amplis différents, il y a aussi pourquoi pas des rigs de gens connus, etc. Et puis après, t'as même, et c'est une des solutions qui justement je trouve intéressante parce qu'elle allie un peu les deux mondes, qui est plutôt les baffles virtuels, où en fait là tu utilises un vrai ampli, mais tu auras ce son justement tout de suite beaucoup plus produit, pas de captation sonore, de galère avec tes micros, etc. Et on sent que même les mecs un peu puristes du son à lampe, etc., recherchent cette idée d'un son plus produit, plus facile à capter.
Mais forcément, c'est tellement galère d'enregistrer à l'ancienne, on va dire, et c'est tellement facile d'enregistrer avec ces technologies-là que forcément tu te poses la question à un moment ou à un autre. Mmh. Après, tu vois, ça dépend aussi beaucoup des styles que tu joues. Vu que maintenant on est sur des styles qui sont très produits, très clean, tu as très compressé et tout, il y a aucun souci pour utiliser des VST ou des choses comme ça. Après, c'est vrai que parfois, tu vois, j'ai remiqué mon bon vieux Deluxe Reverb avec un bon micro devant et franchement ça sonnait mieux, largement mieux que mes plugins, tu vois. Mais ça dépend du contexte. Si je devais faire un gros truc prog et tout, j'enregistrerais pas sur mon ampli avec un micro, c'est hors de question. Surtout qu'en plus, c'est très pratique si deux mois plus tard, tu reviens sur ta session, tu veux modifier ton son, en deux clics, c'est réglé avec un plugin. Alors que ton ampli, bah vas-y, hein, retape-toi toute la prise et bon courage, quoi.
Ou alors tu l'as fait, mais comme un ingénieur du son, c'est-à-dire tu fais une prise DI en parallèle, etc. Mais, enfin, c'est l'enfer. Une expertise, c'est l'enfer, quoi.
Ouais. C'est ça, c'est surtout que c'est facile, quoi. C'est très très facile et ça sonne bien, donc pourquoi se priver, quoi.
Et moi, j'ai une petite question bonus. C'est si tu devais donner, je veux dire, un ou deux conseils à quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer dans la guitare ou quelqu'un qui commence, etc. Selon toi, quels seraient les conseils de prédilection que tu donnerais à ces petits jeunes?
Alors, déjà, déjà, ça serait de pas rester dans l'optique un peu à l'ancienne du travail, de se dire il me faut un professeur, il faut que j'aille au conservatoire et de t'avoir mes cours toutes les semaines machin. Il y a tellement de ressources en ligne maintenant pour apprendre la guitare que voilà, c'est pas qu'il y a plus besoin de prof, mais c'est qu'on peut avancer beaucoup plus vite que juste en ayant un cours une fois par semaine. Et en farfouillant, on retrouve un peu l'idée qu'on avait tout à l'heure quand on parlait de fouiller des playlists, tout ça. Le contenu pédagogique sur Internet, sur YouTube, mais de partout, est incroyable. Et je pense qu'il faut vraiment se servir de ces nouveaux outils qui sont à notre disposition pour apprendre.
Est-ce que tu ferais un SO à une autre chaîne que tu connais qui parle de guitare?
Il y a plein de chaînes qui parlent de guitare dans le coin. Il y a plein de collègues à moi, je sais pas, les gars comme Saturax, ce truc de là, des chaînes comme ça qui sont plus axées vraiment sur l'apprentissage de la guitare. Après, c'est vrai que je regarde assez peu de vidéos en français. Je regarde beaucoup de youtubeurs anglais. Et là, il y a Eric Biato, Adam Neely, Paul Davids, qui est très connu aussi, et qui font des super contenus pédagogiques très très intéressants et très cool.
Bon les gars, je crois qu'on est arrivé à la fin de l'épisode. On va
franchement,
et on a tout dit. On a tout dit. Voilà, on a bien parlé guitare. C'était un reproche qui avait été fait au premier épisode, de peut-être pas assez parler compo, vraiment purement musique, etc. On va essayer vraiment d'aborder plein de facettes différentes de la musique à chaque fois, en essayant que ce soit intéressant quand même. Mais voilà, c'est un monde tellement vaste, tellement intéressant qu'on n'a pas envie de se bloquer sur un truc précisément. Mais voilà, de parler de plein de choses avec quand même une tendance sur les musiques un peu plutôt d'aujourd'hui, ça c'est clair. En tout cas, on voulait.
Mais on avait parlé d'alterner, je sais pas si on peut spoiler, mais en tout cas, on avait essayé de penser à alterner régulièrement à des sujets beaucoup plus tournés vers l'industrie et beaucoup plus vers la production, et donc notamment le rap, mais aussi d'autres choses, tu vois. Mais en tout cas, musique urbaine, c'est sûr, on va en parler parce que ça représente quand même énormément du marché. Mais on voudrait alterner idéalement un épisode sur deux à venir sur des trucs qui parlent plus à un public, on va dire, de musiciens, pas forcément d'une autre génération, mais en tout cas des musiciens qui sont plus tactiles, on va dire. Et puis, on avait parlé potentiellement de faire un épisode sur la musique classique, et on va essayer de trouver un peu des gens qui seront pertinents dans ce truc-là. J'ai déjà deux, trois idées. On va essayer de dégrossir un peu tout ça. Mais en gros, c'est pour revenir sur ce truc-là. On va pas faire que parler que de rap et de MPC et de machin, tous ces trucs-là.
En tout cas, on vous remercie de nous suivre. On remercie aussi une petite case dédiée quand même à Thoman, notre sponsor qui nous permet de faire ces vidéos, tout simplement.
Yes,
c'est
Thoman. Yes. Moi, si j'achète une guitare, je vais chez Thoman. Hein,
ah bah oui, mais moi aussi. Et puis surtout...
Et toi, Florent Garcia
hein, tu achètes tout, Florent Garcia.
Tu achètes toutes tes guitares.
Je ne prononce pas.
En tout cas, vous pouvez suivre cette émission sur YouTube, mais aussi en audio. Il y a une version purement podcast. N'hésitez pas, vraiment, ça nous aide à vous abonner, que ce soit sur les plateformes de podcast, que ce soit sur YouTube. Lâchez un petit commentaire, le petit 5 étoiles sur iTunes, par exemple, enfin sur Apple Podcast. Vraiment, je sais que ça fait le discours, etc., mais ça nous permet vraiment de pouvoir dire derrière, vous voyez, on a des vues, ça se passe bien, et de pouvoir continuer à essayer de vous proposer le contenu le plus cool possible. Florent, où c'est qu'on peut retrouver sur Internet ce que tu fais, tes réseaux éventuellement?
Bah, moi, c'est très facile. Hein. Sur YouTube, c'est généralement le contenu qui parle au plus de gens. C'est à mon nom en plus, donc c'est Florent Garcia. C'est très facile à trouver. En plus de ça, je suis super actif sur Instagram, que ce soit en post, en story. Et sur Instagram, j'ai plus un contenu musical, on va dire. Vraiment, sur Instagram, c'est principalement moi qui fais de la musique. Et sur YouTube, c'est un peu plus moi qui parle de musique, quoi. Et sinon, évidemment, j'ai aussi quelques titres sur Spotify, Apple Music, sur tout ce qui est streaming, tout ça. Et voilà, pour l'instant, c'est ça mes terrains de jeu de prédilection, on va dire.
Michel, toi, sur les réseaux, on te retrouve maintenant sur Spotify.
Exactement, allez, streamer mon contenu, les amis. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un seul morceau, mais ce soir, il y en a un qui sort à minuit. C'est pas du tout de la guitare, mais en fait, j'essaye vraiment de, comme je fais sur ma chaîne, tu vois, pour moi, ce sera j'ai mis longtemps à me lancer dans ce truc-là. Mais ce sera un prolongement de ma chaîne où, en gros, je fais vraiment de tout et n'importe quoi, tu vois. Ça peut être... Là, ici, le premier qui est sorti, c'était un truc, un morceau un peu électro-expérimental avec des petits relents de hip-hop dedans. Celui qui sort ce soir, c'est vraiment du hip-hop, je sais pas, Chopped and Screwed, avec une prod un peu à la Look At Me Now, tu sais, Busta Rhymes, Lil Wayne, à l'ancienne. Après, j'ai un piano solo qui sort, des trucs comme ça. Tu vois. Enfin, genre, je veux vraiment faire de tout et n'importe quoi. Il n'y a aucune ligne éditoriale musicale, tu vois, aucune cohérence.
Je réagis juste. Il faut savoir qu'il a été marqué par le premier épisode de ce podcast, Michel. Il s'est dit, putain, il y a de la thune dans le piano solo. Je m'y mets à fond.
Exactement. Je l'ai dit dans le podcast. Hein, à la fin, il nous a dit, ouais, si tu passes dans telle playlist et tout, tu fais 50K par an avec un morceau. J'ai dit, ah ouais, j'ai ouvert FL, j'ai chargé piano et blue.
C'était une blague, mais tu l'as vraiment fait.
Ah non, je l'ai fait, là. Morceaux qui sont en chemin, genre j'en ai 4 qui sont finis, j'en ai 2 autres qui sont prêts, tu vois, genre je dois fignoler un petit peu, je vais sortir un EP piano, mon gars, je vais bombarder toutes les 3 semaines, je vais emballer un piano solo sur Spotify, je veux un morceau à 50K minimum, tu vois, obligé.
Bon, et sinon, évidemment, ta chaîne YouTube, Chronomusique, sur les réseaux, Twitter, etc., Chronomusique aussi.
Ouais, voilà, K-R-O-N-O et Musédica. Yes. Et toi, Salman?
Et bah, vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Salman Sali, mon nom. Et puis surtout, j'ai un autre format vidéo sur la chaîne YouTube, Monte le son. Allez soutenir à fond la chaîne, ça fait du bien. Et voilà, c'est culture son, on essaye de parler de l'aspect un peu plus sociétal, culturel de la musique. Plein de sujets assez différents, n'hésitez pas à checker ça. Voilà, en gros.
Voilà.
Je pense qu'on peut dire...
Merci beaucoup, Florent, d'être venu. Hein.
Mais oui.
Merci pour l'invite, c'était cool, ça m'a fait plaisir, on a pu parler plein de choses et prendre le temps de, surtout, contrairement sur ma chaîne, je prends un peu moins le temps de parler, donc là c'était cool, ça a duré un peu.
Yes.
Merci beaucoup d'être venu, Flo, ouais. Bah nous on vous dit à dans un mois on revient.
On se retrouve le mois prochain, ouais.
Exactement, avec un nouveau thème. On espère que cet épisode vous aura plu et on va essayer de faire de mieux en mieux, toujours plus, parce qu'on est chaud.
Voilà.
Exactement. Allez, à très vite tout le monde. Bye bye. Ciao.
Salut. Ciao.